Bonjour Fabrice Bonifay, vous êtes directeur du développement durable du groupe Bouygues. Vous venez de réaliser une plateforme qui s'appelle Entreprise Contributive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept, le pourquoi du comment de cette initiative?
Alors, avec Céline Puff, on a pensé que c'était le moment de proposer un modèle de développement pour les entreprises qui soit pas simplement un modèle basé sur j'essaye de faire mieux ce que j'ai toujours fait, mais de tendre vers un modèle de j'essaye de faire différemment pour prendre en compte, pour mieux prendre en compte ce que on appelle les externalités négatives produites par les entreprises. Alors, les entreprises produisent des externalités négatives. Tout simplement parce que ces externalités négatives ne sont pas prises en compte dans les prix. On sait que le business, tout le business des entreprises du monde entier sont basés sur un concept de j'extrais des matières premières que la nature ne facture pas, je transforme ces matières premières avec de l'énergie, des moteurs, de la chimie, un peu d'intelligence humaine, je vends des produits finis à des consommateurs qui les utilisent et qui s'en débarrassent le moment venu pour en acheter un autre. C'est un modèle dit de l'économie linéaire. Et donc ce modèle-là fonctionne très bien. Il produit de la richesse, il produit de la valeur, mais il produit de la valeur. Le PIB, la façon de calculer cette création de valeur, c'est l'art de compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on doit à une partie prenante qui n'est pas en mesure de réclamer son dû, dans la mesure où cette partie prenante s'appelle la nature. Et si on est d'accord sur le fait que finalement le business, c'est des matières premières transformées, à force d'exploiter la nature sans en reconstituer les réserves, ça conduit à un épuisement de ses ressources. Donc on en est là. C'est pas une caricature de l'expliquer comme ça. Et ça fait des décennies que ça dure. Sauf que là maintenant, il y a une espèce de rappel à l'ordre des écosystèmes qui s'imposent à nous, qui commencent à se voir avec les phénomènes climatiques exceptionnels, avec les pollutions visibles dans les océans, etc. Et que les modèles de développement basés sur la croissance infinie, avec des ressources finies, n'est pas soutenable. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais comment on fait autrement? Donc le modèle de l'entreprise contributive, c'est un modèle qui non seulement continue de créer de la richesse pour les parties prenantes, les actionnaires et les clients, bien entendu, les partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants, mais prend en compte aussi cette fameuse partie prenante invisible qui pourtant est à l'origine de tout, qui est l'environnement. Et on se dit, ben, finalement, une entreprise contributive, c'est une entreprise qui va produire plus d'externalités positives qu'elle ne produit d'externalités négatives, voire qui va complètement éradiquer la production d'externalités négatives. Alors, quand on dit ça, ça peut faire sourire. Comment vous allez restaurer la nature? Ben oui, on peut considérer qu'une entreprise aujourd'hui qui appuie une grande partie de son business sur des ressources renouvelables, peut, et à mon avis devra, à terme, à s'assurer que si elle prélève dans la nature 4 arbres, eh bien qu'elle en restitue 4 dans son modèle économique et qu'elle en tient compte dans son prix de vente à son client. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix de faire de cette manière-là. Il faut juste simplement progressivement l'expliquer aux parties prenantes contractuelles, l'intégrer dans le modèle d'affaires. Et ensuite en faire un modèle pérenne, car c'est le seul modèle qui sera soutenable sur des temps longs. Donc le modèle d'entreprise contributive, en peu de mots, c'est ça.
Est-ce si facile de se transformer et est-ce si facile de se transformer rapidement? Parce que si on considère que effectivement les changements climatiques, les menaces, l'accroissement de la population mondiale à un horizon 2030-2050, bon, comment est-ce qu'on effectue ce shift et il y a une question de timing. Donc c'est effectivement ça suggère en fait quelque part l'idée d'une méthodologie de transformation, même si la transformation du business model dans une entreprise n'est pas du tout réplicable, je dirais, d'un secteur d'activité à un autre. Alors bon, comment vous voyez les choses un peu?
Alors, il y a des fondamentaux qui sont incontournables dans le modèle d'entreprise contributive, parce qu'on peut considérer ça comme un modèle. Il n'y a pas de recette miracle pour y arriver, mais par contre, il y a des invariants, des choses sur lesquelles on ne pourra pas faire l'impasse. Alors, première invariance, c'est de dire il faut absolument que l'entreprise, progressivement, par itération successive, considère que le recours à des matières premières issues des industries extractives n'est pas la bonne solution pour le futur et que son modèle doit passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Ça, c'est la première étape, en fait, pour tendre vers l'entreprise contributive. Deuxième étape, c'est de considérer qu'il y a énormément de leviers d'innovation qui vont être nécessaires pour passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. C'est-à-dire de changer le modèle économique d'entreprise, de changer le modèle d'affaires, la façon de commercialiser les produits, d'interagir avec les parties prenantes contractuelles, pour finalement considérer et faire considérer aux clients que ce qui est important, ce n'est pas tant de posséder, mais de pouvoir utiliser. Et donc, l'économie de l'usage, on rentre dans l'ère de l'économie de l'usage, l'économie de la fonctionnalité doit petit à petit remplacer l'économie de la possession et du volume. Et ça, ça nécessite d'éduquer en fait les parties prenantes sur le fait que ce qui est important, ce n'est pas forcément d'être propriétaire d'un objet ou d'une solution, mais de pouvoir en jouir quand on en a besoin et donc de la partager quand on n'en a pas besoin. Donc, on voit bien que l'économie collaborative, l'économie des plateformes, aujourd'hui, est en plein essor, et ça va plutôt dans le bon sens, car c'est une économie qui permet d'avoir plusieurs utilisateurs pour un même objet à différentes chronotopies dans l'utilisation d'un bien, et ce partage en fait, des infrastructures, ce partage des objets, permet d'avoir des taux d'usage qui sont supérieurs, et des ratios d'utilisation de matières premières qui, ramenés à un nombre plus important d'usagers, font que la pression sur les ressources diminue.
Oui, le fameux cas de la perceuse.
Le fameux cas de la perceuse, mais on peut le transposer à tous les objets de la vie quotidienne. C'est la même chose. Donc, mais passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, ça ne va pas de soi. Parce qu'il faut tout changer.
Et oui.
Il faut changer notamment le processus de conception des produits, qui doivent être éco-conçus, réparables, qui doivent être conçus dans une logique de durabilité, pas dans une logique d'obsolescence plus ou moins programmée.
Et l'usage revisite aussi le mode de commercialisation aussi.
Complètement.
Et de financement par le client.
De financement par le client qui va donc qui ne va pas acheter un produit, mais qui va acheter un temps d'utilisation, ce qui est complètement différent, bien entendu. Et ça, il y a quand même des sociétés qui s'y sont mis et dont il faut s'inspirer. Donc, je pense à Ricoh pour les télécopieurs, à Seb pour les produits électroménagers, qui garantissent un certain niveau de réparabilité. Donc, ils continuent de vendre des produits, certes, mais ils sont déjà réparables, donc c'est déjà un peu plus vertueux. Et ils travaillent aussi, pour certains d'entre eux, sur cette économie de l'usage. C'est-à-dire, on vend pour Ricoh non plus des photocopieurs, mais des copies, le photocopieur restant la propriété de l'entreprise. Bon, ce qu'on est en train de dire là, il y a 10 ans en arrière, ça aurait été complètement une utopie, ça aurait été une folie même, hein, car le modèle économique, c'était plus tu vends d'objets, plus tu fais de chiffre d'affaires et plus tu es rémunéré. Ce qui se passe après, le problème des matières premières, des terres rares, etc., c'était un non-sujet. Hein. Donc on voit bien que dans la première partie de l'économie contributive, c'est ce changement de modèle d'affaires. Et qui tournera de toute façon autour de l'économie de l'économie circulaire. On n'a pas d'autre choix. Alors par contre, ces modèles, pour que ce soit attractif, nécessitent de libérer dans l'entreprise la capacité d'innovation de ces entreprises, donc qui doivent faire en sorte de mobiliser tous les cerveaux disponibles à l'intérieur de l'entreprise pour penser autrement. Autrement, et ça nécessite de revisiter aussi les systèmes de management. Donc, c'est pas qu'un problème de modèle d'affaires, c'est aussi un problème de management.
Et de volonté aussi, je dirais, de la direction, du comité exécutif. Enfin, il y a quand même une question d'impulsion.
Voilà, alors ça rejoint ces notions de gouvernance et de management. C'est-à-dire que si, à la tête de l'entreprise, il n'y a pas cette volonté de prendre en compte les temps longs, de considérer véritablement que l'environnement et même le social sont des conditions de profitabilité, alors que pendant très très longtemps, c'était plutôt des résultats. On gagnait de l'argent d'abord et on redistribuait en social, en environnement. Maintenant, on est en train de se rendre compte que c'est l'accès aux ressources et la pérennité des ressources qui fera qu'on continuera à faire du business. Donc, ce qui est le plus important avant toute chose, c'est de préserver les ressources. Bon, c'est quand même un changement de paradigme majeur. Donc, la direction générale des entreprises qui veulent aller vers l'entreprise contributive doivent considérer, et c'est ça l'objet de la loi PACTE en fait, hein, c'est que le social et l'environnement, ce n'est pas une résultante, c'est une condition. Et pour que ce soit vraiment véritablement pris en compte, il faut qu'il y ait une comptabilité environnementale qui se mette en place dans l'entreprise. C'est-à-dire que on doit, pour chaque solution, produit, système qui fait l'objet donc d'un process interne de fabrication, on doit se poser la question de savoir d'où viennent les matières premières et comment, dans mon modèle, non seulement je ne fais pas que prélever, mais je vais à minima préserver et au mieux, bien sûr, restaurer. C'est-à-dire que mon bilan net matières premières sera positif à la fin de mon exercice annuel. Et ça nécessite d'avoir bien conscience des intrants dans les processus de production. Et donc l'analyse de cycle de vie ne suffit plus aujourd'hui. Il faut non seulement savoir exactement ce qu'on utilise, mais surtout comment on va pouvoir à minima restaurer et restaurer, c'est le premier objectif, puis à minima compenser lorsqu'on ne pourra pas restaurer dans les premières boucles d'itération qui conduisent à l'entreprise contributive. Parce qu'on sait très bien qu'on ne passera pas d'une solution complètement linéaire à une solution complètement circulaire en une seule fois. Il y aura des étapes intermédiaires. Donc la gouvernance de l'entreprise, elle est centrale. C'est un changement majeur dans le modèle économique de l'entreprise. Et s'il n'y a pas de volonté politique de changer de ce modèle d'affaires, il n'y a aucune chance que ça fonctionne.
Alors, on voit bien que de toute façon, il y a un appel d'air, puisque en général, les collaborateurs recherchent du sens. Au recrutement, on le voit aussi, il y a une recherche de sens. La finance, aujourd'hui, fait de plus en plus le repère sur des indicateurs de responsabilité. Donc, il y a quand même des choses qui changent, qui sont importantes. Mais cette impulsion et cette mobilisation en interne, comment se passe-t-elle? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a... Parce que quand même, ébranler ou transformer son modèle d'affaires, ça nécessite quand même de remuer pas mal de choses en interne. Donc, comment se passe cette impulsion et comment on arrive à véritablement entraîner, à faire créer cet empowerment en interne?
Alors, la clé, c'est en effet de redonner du sens à la raison d'être de l'entreprise. C'est d'ailleurs l'esprit de la loi PACTE. C'est-à-dire la raison d'être, c'est de dire voilà, qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas? Et pourquoi mon entreprise est importante dans le développement humain. Et c'est-à-dire qu'en fait, ce que veulent les collaborateurs et les clients, je pense, des entreprises de demain, ce n'est pas tant des produits ou des solutions qu'elles proposent, c'est pourquoi elles le font. Et cette notion de sens, c'est ce qui va permettre d'accélérer la transition, je pense. C'est-à-dire que les collaborateurs, dès lors qu'on va leur dire, vous ne vendez pas simplement des solutions de mobilité ou des voitures, mais vous vendez la restauration des écosystèmes qui contribuent à faire qu'il y a de la mobilité, ça quand même, ça renforce notablement l'envie d'aller travailler tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement en disant, voilà, la motivation, c'est faire 5% de chiffre d'affaires de plus ou 2% de marge, parce que ça, c'est une résultante. Mais de dire aujourd'hui, on va contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes qui vont bénéficier du produit, mais on va aussi améliorer la qualité environnementale, on va améliorer le contexte, on va améliorer l'environnement en général. Donc, je pense que de plus en plus, les jeunes qui ont conscience de ce qui est en train de se passer, les millennials, ont envie de travailler dans les entreprises qui ne sont pas ce qu'on appelle les entreprises prédatrices, c'est-à-dire qui ponctionnent, qui extraient, mais qui ne restituent jamais rien et qui font simplement du trading de matières premières qu'elles n'ont pas payées et qu'elles n'ont sous prétexte qu'elles ont eu la chance de naître sur une zone d'extraction ou dans un pays riche en telle ou telle matière première. Donc ce type d'entreprises prédatrices qui ont contribué beaucoup au développement d'une grande partie de l'humanité, ce modèle-là, de toute façon, il n'est pas soutenable, on l'a dit au début de cette interview, dans la mesure où les ressources ne sont pas infinies. Donc on est tenu aujourd'hui de changer de modèle. Et les entreprises qui sauront faire ce shift, comme vous dites, ce saut dans une économie qui va être beaucoup plus contributive, sont les entreprises qui probablement en récupéreront les ressources humaines les plus engagées, les plus motivées, les plus talentueuses. Parce que au-delà de ce changement de modèle économique qui est le socle de toutes les entreprises de demain, il y a la nécessité de réenchanter l'entreprise sur la façon de produire la valeur, c'est-à-dire les systèmes de management. On doit passer d'un système de contrôle-commande qui fonctionne très bien dans un environnement stable à un système beaucoup plus basé sur la confiance, sur l'agilité, sur la flexibilité dans un environnement instable, de manière à ce que les collaborateurs restent engagés dans la durée et surtout fassent preuve de créativité et d'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'on copie la nature, il va falloir qu'on s'inspire, qu'on soit de plus en plus économe dans la façon de créer la valeur. Donc il y a un découplage à opérer, ce que j'appelle le découplage, c'est de créer toujours plus de valeur en consommant toujours moins de ressources. Alors que pendant des années, on était sur des systèmes qui étaient complètement corrélés. Plus je crée la valeur, plus je consomme de l'énergie, plus je consomme des matières premières. Donc ce découplage valeur produite, ressources consommées, ça nécessite d'être beaucoup plus ingénieux, beaucoup plus imaginatif, beaucoup plus malin et beaucoup plus en interaction les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer dans un modèle qui n'était pas du tout collaboratif, qui était chacun est spécialiste dans son domaine, dans son silo, indépendamment les uns des autres, à un système qui va être beaucoup plus interdépendant, où les entreprises vont devoir être en mode client-fournisseur sur tout un tas de process internes et externes, où les données de sortie des uns vont devenir des données d'entrée des autres, dans un système ultra complexe qui va nécessiter vraiment beaucoup d'agilité et beaucoup de process essai-erreur pour trouver le bon équilibre. Eh bien ça, on ne pourra pas le faire avec des systèmes de management traditionnels qui sont extrêmement sclérosants, qui sont extrêmement lents dans les processus de décision, parce qu'il faudra faire l'analyse de risque, il faudra faire rien. Et ça, ce système-là qui est bon dans un système stable, n'est pas du tout bon dans un système chaotique. Et on va rentrer dans un système chaotique et turbulent, et les entreprises qui s'en sortiront sont les entreprises qui sauront gérer cette complexité et gérer cette agilité.
L'impact positif que vous voulez communiquer à travers cette plateforme entreprise contributive, c'est justement d'essayer d'aider les entreprises à se coacher. Quelle est votre vision de développement ou je dirais d'impact à travers cette plateforme? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'il y ait des forums, que les uns puissent aider les autres? Est-ce qu'il y a un système, je dirais, un peu pratique de l'entraînement? Parce qu'il y a la contagion, en fait, dans la méthodologie, il y a la pratique, et en même temps, il y a chacun sa recette. Mais comment est-ce qu'on peut faire mousser le processus?
Alors, l'objet de la plateforme, c'est clairement des témoignages de personnes, quelles qu'elles soient, hein, des experts, des experts environnementaux, des experts de la RSE en général, mais aussi des entrepreneurs, bien sûr, des témoignages qui donnent envie de changer, enfin d'engager en tout cas une réflexion pour mettre en place ce type de démarche dans l'entreprise, par l'exemple. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est le contraire d'un concept intellectuel qui sympathique sur le papier, mais qui est impossible à implémenter. Donc, on se veut ultra pragmatique avec Céline, c'est-à-dire qu'on veut donner la parole à des faiseurs, à des entrepreneurs qui ont choisi ce modèle-là d'entrée de jeu et qui ont obtenu des résultats. Car on sait très bien que la meilleure façon d'implémenter ou de faire connaître un concept, eh bien, c'est de montrer que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, et heureusement, il y a suffisamment d'exemples d'entreprises qui ont choisi cette voie-là, Mais ce n'est pas forcément des entreprises qui ont des notoriétés internationales ou qui ont des produits et des solutions qui sont connues de tous. Donc on veut, au travers de cette plateforme, les mettre en visibilité, en lisibilité, de manière à ce que ça puisse inspirer d'autres entrepreneurs ou d'autres décideurs de s'inspirer de leurs pratiques, non pas pour les cloner ou les copier à 100%, parce que de toute façon, chaque entreprise a un environnement contextuel qui est le sien, mais au moins que ça puisse les inspirer et leur inviter aussi de réinventer certains principes qui peuvent être facilement transposables. Donc c'est ça l'idée de la plateforme, c'est de donner envie et de créer une vague. Hein, l'idée, c'est de créer une vague parce qu'on pense que finalement, un peu à l'instar des holas dans les stades, il peut y avoir une accélération. Une accélération, dès lors qu'il y aura un certain nombre d'entreprises qui vont adopter ce type de modèle, ce type de métrique de la performance, parce qu'il s'agit bien d'une métrique de la performance qui n'est pas exclusivement financière, mais qui est aussi environnementale, sociale et sociétale, eh bien que par contagion, par mimétisme, l'ensemble des entreprises finissent par basculer, non pas parce que elles voudraient simplement copier des entreprises qui surperforment aujourd'hui, mais tout simplement parce qu'elles veulent redonner du sens à leur modèle d'affaires et redonner du sens à leur raison d'être.
Oui, le mimétisme, c'est vrai qu'on peut donner effectivement l'exemple de jeunes entreprises ou de start-up qui se créent sur des modèles de partage avec des organisations parfaitement plates et ouvertes, etc. Mais vous, qui parlez d'un grand groupe qui est déjà structuré, ancien, avec un modèle d'affaires qui est déjà très ancré. Je sais que vous avez fait des modifications très importantes dans votre portefeuille et dans votre offre et dans votre innovation, justement au regard un peu de tous ces problèmes. Mais les grandes entreprises, celles qui sont les plus impactantes en plus en termes de CO2, est-ce que c'est véritablement facile pour ces grandes organisations de bouger vite? Or, c'est ça l'enjeu, c'est bouger vite.
Non mais si c'était facile, on ne serait pas là pour en discuter. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a plein d'inertie. Vous savez, tout le monde est pour le progrès mais contre le changement. Il y a aussi des forces de rappel et beaucoup de conservatisme de la part de certaines parties prenantes. Il y a aussi tout simplement un système qui s'est mis en place et qui fonctionne encore, hein, qui produit encore beaucoup. C'est ça un petit peu le paradoxe, c'est que finalement, le système qu'il faut changer est encore extrêmement performant. Et c'est compliqué pour des conseils d'administration, pour des investisseurs, pour des fonds. De passer d'un système qui fonctionne très bien encore pour beaucoup de grandes industries à un système qui fonctionnera demain, mais qui n'a pas encore apporté toutes les preuves de sa robustesse. Et il y a aussi des contraintes d'antériorité qui font que l'économie linéaire, par exemple, fonctionne très bien sans transformation numérique particulier, parce que le système linéaire a fonctionné bien avant que la transformation numérique soit en cours. Par contre, l'économie circulaire ne fonctionnera qu'avec la transformation numérique. Et on voit bien que les échanges d'informations qui vont être nécessaires aujourd'hui dans un monde complètement circulaire, on ne pourra, vu le nombre de personnes qu'on est sur cette planète, vu le nombre d'interactions qu'il y a, sans système d'information, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, en tout cas, à moyen terme. Donc, la difficulté aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la vitesse de la transition. C'est à quelle vitesse est-ce qu'on va bouger et savoir bouger suffisamment, enfin savoir transitionner suffisamment rapidement par rapport aux enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui et qui, vous le savez, doivent conduire l'humanité à diviser par 3 ses émissions d'ici 2050 et pour beaucoup de pays comme la France, par 6, en ce qui concerne les Français en tout cas, par 10 pour les Américains, etc. Donc on a un effort énorme à consentir, un effort de changement dans un laps de temps qui est extrêmement court. Donc la vitesse, c'est à quelle vitesse, enfin, la difficulté, c'est à quelle vitesse on va arriver à faire tout cela. Moi, je pense qu'il y a cette prise de conscience naissante des générations qui sont en train d'arriver sur le marché du travail, Il y a des grandes organisations aujourd'hui qui sont tout à fait sincères dans leur modèle de transition. Je ne peux qu'espérer qu'on assiste à une accélération des entreprises en transition dans la décennie 2020-2030, parce qu'on sait très bien que ça va être la décennie soit du renouveau, de la renaissance, soit la décennie du chaos et la décennie de la destruction. Donc, je ne sais pas lire l'avenir, mais je sais que moi, en tant qu'entrepreneur, et plutôt en tant que responsable développement durable d'une entreprise qui est basée sur l'entrepreneuriat et sur des produits qui sont en mutation, parce que les infrastructures aujourd'hui, la construction durable, la reconstruction des villes sur les villes, c'est le cœur de l'activité du groupe aujourd'hui. Mais toutes les grandes entreprises doivent faire cette réflexion, doivent réfléchir sur leur modèle d'affaires, doivent réfléchir sur leur modèle de management et considérer tout ce qu'on vient de dire et toutes les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, non pas comme des risques, mais comme des opportunités.
En tant que président du C3D, là, tout le débat, les consultations, le rapport Nota Sénart, est-ce que ça a apporté quand même un travail de réflexion intéressant, ça a apporté une prise de conscience, ça et là. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Écoutez, quand les anthropologues du 22e siècle regarderont quand même comment le développement durable s'est développé au 19e et surtout au 20e siècle, on va s'apercevoir qu'il ne s'est rien passé quand le Club de Rome a produit son rapport, ça n'a pas changé grand-chose au système économique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, ils avaient raison. Hein. Ils avaient raison parce qu'en fait, aujourd'hui, tout leur donne raison. Ils se sont trompés de 30 ou 40 ans. Mais enfin, grosso modo, ce qu'ils avaient prévu est en train de se réaliser. Donc, mais par contre, ça n'a rien changé. Maintenant, si on revient plutôt dans l'histoire et quand on regarde finalement la prise de conscience du développement durable et la nécessité de changer, finalement, ça a une quinzaine d'années maximum, 10-12 ans. Hein, plus exactement, parce que la création des directions de développement durable dans les entreprises date de 2006, 2007, 2008 pour la plupart d'entre elles. Même s'il y avait déjà des directions environnement, mais on était encore plus sur des directions, enfin on était sur des directions à l'époque qui étaient directions défensives, hein, de respect de la réglementation environnementale, mais il n'y avait pas du tout de volonté de changement de modèle économique. Eh bien, finalement, on s'aperçoit qu'entre 2006 et maintenant, les questions qui se posent ne sont plus des questions de comment je fais mon travail en diminuant mes impacts, mais comment je vais faire mon travail autrement, en prenant en compte les externalités. C'est quand même un sacré changement et une sacrée accélération.
C'est une révolution entrepreneuriale.
C'est une révolution, on peut le dire, le terme n'est pas trop fort, il s'agit d'une révolution. Et finalement, ça se passe assez vite à l'échelle de ce qui s'est passé au niveau industriel depuis 150 ans. Donc, si on continue à ce rythme-là, on peut penser que les entreprises auront complètement changé de modèle d'affaires d'ici 10 ans. Quand on regardera ça dans 150 ans, on se dit qu'ils n'auront quand même pas mis beaucoup de temps pour transformer leur modèle d'affaires. Parce que quand on voit un peu l'inertie qu'il peut y avoir, et ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Américains ont été contraints de rentrer dans la guerre en 1940-41, finalement leur industrie n'était pas une industrie de guerre à l'époque, hein, je ne sais pas si les historiens s'en souviennent très bien, hein, ils fabriquaient, si je crois me souvenir, 3 000 ou 3 500 avions de guerre par an, ils sont passés à 10 000 par mois à la fin de la guerre, et donc ils ont su faire cet effort. Bon, eh bien, on peut espérer en tout cas que le défi climatique, qui est le défi ultime pour l'humanité, hein, parce qu'il s'agit simplement de sauver la maison commune que nous avons, qui s'appelle la Terre, on peut penser qu'il y ait ce sursaut d'instinct de survie de l'humanité qui se dit, voilà, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sauve le climat parce que du climat dépend tout le reste, l'érosion de la biodiversité, l'agriculture, et l'agriculture, c'est quand même ce qui nous nourrit, et que ce sursaut fasse que, en une dizaine d'années ou une vingtaine d'années maximum, eh bien, on puisse continuer de créer de la valeur dans les entreprises sans émettre de CO2 et surtout sans produire d'externalités négatives. J'ai la faiblesse de penser que c'est possible, parce que sinon c'est une histoire qui va mal se terminer.
Oui, certainement pas. Mais Dernière question. On oppose quand même pas mal en ce moment un espèce de clivage de génération entre les jeunes et les moins jeunes. Or, on connaît certains vieux qui ont tout à fait conscience des enjeux et qui sont très militants.
Oui, il y en a.
Et donc, en quoi justement cette jeune génération qui pousse et qui est véritablement qui fait un effet de levier, c'est absolument incontestable. Qu'est-ce qui différencie ça des générations un peu plus mûres? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est une question d'influence? Est-ce que c'est une question aussi de résistance de la part des plus âgés? Est-ce que c'est une question de non-perception des enjeux de la part des plus âgés? Est-ce que c'est une question de frein dans la modification des comportements? Où est un petit peu le match entre ces générations?
Dans votre question, vous avez déjà apporté beaucoup des réponses. Aujourd'hui, je pense que les jeunes générations ont surtout plus conscience que s'ils font rien, ils vont en souffrir plus longtemps. Ça, c'est déjà un élément incontestable. Oui, c'est naturel. Les anciens aussi ont plus à perdre. Alors que finalement tout le monde a gagné à transitionner, mais quand vous avez beaucoup beaucoup investi dans un modèle qui est terminé et que vous voyez un autre modèle arriver, vous avez cette peur de dire mais oui mais bon tout le capital que j'ai accumulé etc. est-ce que ça va pas changer quelque chose sur mon niveau de vie etc. Alors que moi je pense pas du tout. Au contraire, le but de tout ça c'est certainement pas qu'il y ait un recul du niveau de vie des gens ou du confort. Par contre, il y a probablement des choses qu'il va falloir qu'on revoie, notamment sur le partage, l'équité et sur la façon dont les richesses vont se redistribuer. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire on va retourner au Moyen Âge, en termes de conditions de vie, et que on va retrouver des espérances de vie qui étaient les nôtres il y a une centaine d'années. Le but, c'est pas du tout ça. Parce que si on vend ça aux populations, on sait très bien que ça ne pourra pas fonctionner. Donc, pourquoi finalement les plus anciens résistent plus à ce changement que les plus jeunes? C'est qu'ils ont probablement pas complètement compris, on peut le dire, cette nécessité de changer. Qu'il y a aussi, quand on vieillit, hélas, des réflexes conservateurs qu'on a moins lorsqu'on est plus jeune. Ce n'est pas vrai pour tous, vous l'avez dit vous-même, mais c'est une tendance qu'on observe généralement. Mais bon, maintenant, moi je le dis souvent, le management c'est une énergie renouvelable, les générations se renouvellent. Il va de toute manière, les jeunes générations qui vont arriver, qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail et qui vont petit à petit arriver au pouvoir, est-ce qu'ils vont utiliser les mêmes leviers, les mêmes ressorts que leurs aînés? Certains oui, d'autres pas. On le voit bien d'ailleurs avec notre président de la République actuel qui change les codes et je pense que c'était nécessaire. Moi j'ai la faiblesse de penser que finalement on aura besoin de tout le monde dans cette histoire et que le gros avantage aussi des plus anciens c'est leur expérience. C'est leur sagesse et que l'objectif clairement aujourd'hui c'est certainement pas d'opposer les générations, de dire voilà vous aviez tort, nous on a raison, ça n'a pas de sens de dire ça et qu'il est déjà trop tard de toute manière pour chercher à savoir qui a tort et qui a raison, c'est beaucoup trop tard, on a besoin de tout le monde pour un but commun parce que maintenant on connaît le pourquoi on doit modifier notre modèle. Le pourquoi, c'est de sauver l'humanité, et que ça passera beaucoup aussi par la sensibilisation et la formation, parce qu'un jeune non éduqué est tout aussi inefficace qu'une personne plus ancienne éduquée, mais qui ne fait rien. Donc, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous avez automatiquement raison. Il faut être jeune, mais il faut avoir bien conscience de ce qui est en train de se passer et connaître aussi les leviers pour changer la donne. Donc, moi, je ne rentrerai pas dans le débat de dire les vieux, c'est pas bien, les jeunes, c'est bien. Non, ça n'a pas de sens de dire ça. On doit maintenant travailler sur l'objectif commun qui est de tendre vers l'entreprise contributive.
Eh bien, Fabrice Boniface, merci beaucoup. En tous les cas, c'était un entretien très intéressant. Longue vie donc à votre plateforme entreprise contributive, en espérant qu'il y ait des développements et de l'entraide, des passerelles entre ceux qui ont fait et ceux qui veulent faire, pour trouver des points d'appui et de se transformer rapidement et utilement. Bravo.
Merci.
À bientôt.
Merci.